Bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé audio des livres pour s'enrichir. Aujourd'hui, nous allons aborder The Tipping Point, écrit par Malcolm Gladwell. The Tipping Point signifie stade ou point de basculement. Le livre entier est l'analyse du moment où quoi que ce soit, un message, une maladie, une marque, etc., passe du stade de l'inconnu à une large diffusion ou propagation et en étudie les facteurs. Très scientifique, il s'appuie sur des études diverses et variées qui en posent les fondements. Ce qui est frappant avec ce livre, c'est la neutralité dans l'analyse sans pour autant tomber dans la froideur. En effet, Malcolm Gladwell n'hésite pas à ramener au même plan le virus du sida, Ebola, avec les modèles de chaussures Hush Puppies ou de grandes enseignes comme Coca-Cola ou Nike. Il considère que l'effet de propagation et le point de basculement sont les mêmes, que le message diffusé soit positif ou négatif. Un point sur l'auteur. L'auteur de ce livre est Malcolm Gladwell, l'actuel rédacteur en chef du magazine The New Yorker. Il est né le 3 septembre 1963 à Fareham, en Angleterre, et vit actuellement aux États-Unis. Ancien journaliste économique et scientifique pour le journal The Washington Post, il est aussi l'auteur du livre Blink, qui s'est classé, tout comme The Tipping Point, comme best-seller numéro 1 du New York Times. Ces deux livres figurent aussi parmi les best-sellers les plus traduits au monde. Tout commence par la découverte. Pour qu'un message, quel qu'il soit, atteigne le point de basculement qui lui permette d'être connu ou diffusé à plus grande échelle, il doit passer par différents stades, dont le premier est la découverte par un petit nombre. Et pour que cela apporte du résultat, il est important que soient respectées les trois règles du point de basculement suivantes. Les trois facteurs de diffusion ou de propagation qui s'appuient sur la loi du petit nombre et du facteur de mémorabilité. Que cette transition repose sur des acteurs clés, gage du succès final dans la diffusion de masse de ce message. Que le contexte de diffusion dépendant de l'environnement soit maîtrisé. Les trois règles de propagation. La première règle reprend la loi de Pareto, soit la règle des 80-20 qui dit que 80% des résultats sont obtenus par 20% des personnes. Selon un exemple cité dans le livre, l'auteur affirme que 80% des criminalités sont effectuées par 20% de personnes. Cette règle est applicable dans bien des domaines, que ceci soit positif ou négatif. La deuxième règle repose sur l'effet de groupe. En effet, l'auteur considère que l'on n'évalue pas les choses de la même manière lorsque l'on se trouve dans un groupe. De plus, notre comportement change selon la situation. Quelque chose que l'on aurait considéré comme important, seul, ne l'est plus du tout une fois en groupe, et vice-versa. À ce stade, même notre sensibilité change selon la situation. L'auteur ajoute que ce n'est pas tant la communication verbale qui prime, mais bien la communication non-verbale qui fait la différence et qui diffuse l'essentiel du message. Lorsque deux personnes parlent entre elles, il se produit un phénomène de synchronicité, c'est-à-dire qu'elles vont s'ajuster au même niveau de voix, de posture, tête, épaules, bras et de débit de phrase. Cela témoigne bien du fait que l'homme est un animal social, dont le manifeste est bien de s'intégrer et d'évoluer parmi un groupe. Ce phénomène de synchronicité est naturel et observable dès la naissance. Le nourrisson va synchroniser sa tête, ses bras, ses épaules et ses hanches selon la voix de l'adulte qui lui parle. La troisième règle découle du contexte, socle de diffusion du message ou produit permettant d'atteindre le point de basculement pour une propagation maximale. Comme vu plus haut, seul ou en groupe, notre perception des choses et notre sensibilité changent. Le contexte offre l'opportunité à une idée, un message ou un produit, de germer jusqu'à atteindre une certaine expansion ou non. La loi du petit nombre. La loi du petit nombre s'appuie sur la théorie des 6 degrés de séparation. En effet, pour l'auteur, les 6 degrés de séparation reposent sur un petit nombre de gens dont la particularité est de connaître un maximum de personnes et de les lier entre elles, en seulement quelques étapes, moins de 6. Cette loi étudie les similarités qui permettent une proximité avec ceux que nous considérons comme des amis et avec qui nous partageons des critères sociaux, professionnels et culturels communs très étroits. Ce petit nombre, soit 20%, est à l'origine de 80% du succès d'un message ou d'un produit. Et de ce fait, il est le pilier de cet effet ou stade de basculement. On classe en trois catégories ces acteurs clés. Les réseauteurs. Ils connaissent un maximum de personnes de tout horizon et sont très influents au sein de leur groupe. Tout est bon pour agrandir leur cercle de connaissances et leur réseau d'amis. Ces personnes trouvent la majeure partie du temps un emploi grâce à leur entourage et font tout grâce à leur réseau. Ils savent que ce n'est pas tant ce que l'on connaît, mais qui l'on connaît qui fait la différence et ils cultivent cet état d'esprit au quotidien. Les experts ultra ou fins spécialistes. Ils sont à la pointe dans leur domaine. Ils savent tout et leur savoir est sans borne. Ils apportent beaucoup dans l'effet de propagation grâce à leur expertise. Leur aptitude à traduire des notions assez ardues en un langage clair fait que l'auteur les considère comme un ciment social. Cette capacité à populariser des faits et notions complexes en les rendant compréhensibles aux yeux du plus grand nombre fait leur force et donne l'impulsion de propagation, optimisant ainsi le point de basculement. Les super vendeurs. Ils savent convaincre grâce à leur charisme, leur personnalité, leur savoir-faire. Ils sont moteurs quant à la multiplication des résultats et sont à l'origine de l'effet de bouche à oreille qui fera le succès ou non d'un produit ou d'une information. Ces véritables machines à persuasion ont su développer des mécanismes internes forts d'intelligence sociale, qui les rendent incroyablement doués pour vendre et apporter des solutions aux gens en une fraction de seconde. C'est à ces trois types de personnes exceptionnelles, que sont les réseauteurs, les fins spécialistes et les super vendeurs, que l'on doit la réussite d'un produit ou message à grande échelle. Car sans eux, point de succès. Ce qui les distingue, c'est leur sens de la persuasion, leur analyse psychologique fine, leur incroyable capacité à communiquer, leur incroyable capacité à s'adapter aux personnes et aux situations, leur personnalité. Dotés de véritables talents sociaux, ces trois types de personnes font le succès d'un produit ou d'une marque de par leur implication à le promouvoir. Leur capacité à interagir et à tirer parti de leurs super réflexes font d'eux des êtres hors normes. Dans le cas des super vendeurs, ils savent communiquer leur émotion, la rendre contagieuse et maîtriser le pouvoir de l'influence. Si l'on prend le cas des modèles de chaussures Hush Puppies, comme proposé dans le livre, leur succès est dû au fait que des jeunes réseauteurs ont su les introduire dans leur milieu et leur groupe. Les porter de manière si originale a donné envie à d'autres de les découvrir et de les porter à leur tour. Cette minorité de jeunes a été le vecteur de popularité et de succès des Hush Puppies parce qu'elle était l'image associée à ces modèles de chaussures. C'est ce petit nombre, les réseauteurs, les fins spécialistes et les super vendeurs extrêmement doués pour les relations sociales et l'art de promouvoir une idée, un message avec l'enthousiasme qui leur est propre, qui font 80% du travail et le véritable succès du produit à promouvoir. Comme ils connaissent 80% des personnes et sont très influents, tout repose donc sur eux. Le facteur de mémorabilité. La deuxième règle du point de basculement concerne le facteur de mémorabilité, c'est-à-dire le fait que le message diffusé soit mémorable par le consommateur et qui lui permettra de passer à l'action. Aujourd'hui, nous vivons une ère de surabondance d'informations qui, dans le monde de la publicité, cause un certain désordre. Cela rend difficile l'obtention d'un seul message à retenir, déclare l'auteur. Dans notre société, nous sommes submergés par des gens qui réclament notre attention. Au cours de la dernière décennie, le temps consacré à la publicité en une heure de télévision continue est passé de 6 minutes à 9 minutes et il ne cesse d'augmenter chaque année. Selon lui, l'entreprise Media Dynamics, basée à New York, a estimé que l'Américain moyen était exposé en une journée à 254 messages commerciaux différents. Cela représente une hausse de près de 25% depuis le milieu des années 70. Il ajoute, il y a des millions de sites web sur Internet. Les systèmes de câblodistribution diffusent régulièrement plus de 50 canaux de programmation différents. Un coup d'œil dans la section des magazines d'une librairie vous dira qu'il y a des milliers de magazines qui sortent chaque semaine et chaque mois, remplis de publicités et d'informations différentes. Dans une vague de diffusion, le message ainsi que son contenu comptent, tout comme ceux qui le propagent. La qualité spécifique que doit avoir un message pour être un succès est d'être mémorable pour ensuite pousser à l'action. Mais pour qu'un message le soit, selon une maxime de marketing publicitaire, il doit être répété au moins 6 fois avant d'être retenu. C'est ce qui fait dépenser à Coca-Cola ou Nike des sommes astronomiques en marketing publicitaire au point de saturer les médias avec leurs messages. Aussi, nous vous dirons que ce sont les spécialistes du marketing direct qui sont les vrais étudiants du facteur de mémorabilité. Certaines des conclusions les plus intrigantes sur la façon d'atteindre les consommateurs proviennent d'ailleurs de leur travail. Prenons l'exemple cité à propos de programmes éducationnels télévisés pour enfants. Les experts décrivent la télévision comme un élément passif d'implication, car elle ne permet pas à l'enfant une rétention active de l'information. Cependant, en faisant quelques ajustements dans la manière dont ils présentaient les choses aux enfants, les créateurs de l'émission Sesame Street en ont fait un succès, rendant ce programme télévisé mémorable, corrigeant ainsi les faiblesses de l'apprentissage via ce canal et retenant l'attention des enfants afin de les éduquer. Dans le cas de Sesame Street, parce que le public est une audience en bas âge qui commence à peine à former ses mots, il est important que l'histoire soit racontée de manière visuelle. C'est ce qui a rendu cette émission compréhensive, mémorable et puissante. Contrairement aux autres programmes pour enfants, où l'on ne fait que parler, Sesame Street a su dépasser le cap du statique. Cela n'a pas été le cas d'une autre émission sortie à la même époque et intitulée Big Bird, pour qui le problème se posait déjà dès les prémices de l'émission. La blague essentielle était que Big Bird ne voulait pas être connu comme étant un grand oiseau. Ce genre de jeu de mots n'est tout simplement pas compréhensible pour un jeune enfant. Un enfant ayant du mal à croire qu'un objet ou une personne puisse porter 2 noms différents, dans le cas de Big Bird, c'est ce qui a rendu difficile leur capacité à comprendre par la suite. Nous voyons ici l'importance d'avoir un message adapté à son audience, car s'il ne l'est pas, nous risquons de rater notre cible et par conséquent de passer à côté. Cependant, beaucoup de critiques concernant la télévision à ce jour soutiennent que ce qui est dangereux, c'est qu'elle crée une dépendance, de sorte que les enfants et même les adultes la regardent comme des zombies. Selon ce point de vue, ce sont les caractéristiques formelles de la télévision. Violence, lumière vive, bruit fort et drôle, montage rapide, zoom avant et arrière, action exagérée et toutes les autres choses que nous associons à la télévision commerciale qui retiennent notre attention. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de comprendre ce que nous regardons ni d'absorber ce que nous voyons pour continuer à regarder. C'est ce que beaucoup de gens pensent quand ils disent que la télévision est passive. Nous regardons quand nous sommes stimulés par tous les coups et les bruits que nous entendons. On détourne le regard ou on éteint le poste quand on s'ennuie. D'où l'importance d'un message clair, facile à comprendre et à retenir, adapté à sa cible, attrayant et répété à plus de 6 reprises pour que le succès soit au rendez-vous. C'est de cela dont il est question lorsque nous parlons de facteurs de mémorabilité. Les conditions doivent être optimales pour que l'information soit retenue et pousse à l'action. Le pouvoir du contexte. Les mouvements sont sensibles aux conditions et aux circonstances du moment et du lieu où elles surviennent. La leçon du pouvoir du contexte est que nous sommes plus que sensibles aux changements de contexte. Les types de changements de contexte susceptibles de faire basculer un mouvement sont très différents de ce que l'on pourrait normalement soupçonner. D'une, le point de basculement d'une vague ou d'un mouvement ne dépend pas seulement d'un type particulier de personne, un réseauteur ou un fin spécialiste. De même que la volonté à adopter un certain type de comportement ne provient pas d'un certain type de personne, mais d'une caractéristique liée à l'environnement. Si l'on part du principe qu'une vague peut être renversée et atteindre le point de basculement, cela ne peut se produire que si l'on en modifie les détails de l'environnement immédiat. Il ajoute que le pouvoir du contexte est un argument environnemental et que le comportement est fonction du contexte social, et cela même si le cadre environnemental peut être très surprenant. Pour illustrer son propos, il affirme que les personnes souffrant d'un retard de développement psychologique ne comprennent pas comment mener des relations saines. Les personnes ayant des prédispositions génétiques à la violence s'enflamment lorsque les gens normaux gardent leur sang-froid. Les gens à qui on n'enseigne pas ce qui est bien et ce qui ne l'est pas sont inconscients de ce qui est ou non un comportement approprié. Les personnes qui grandissent dans la pauvreté, sans père et secouées par le racisme, n'ont pas le même engagement envers les normes sociales que celles qui vivent dans des foyers sains de classe moyenne. Ce que suggère le pouvoir du contexte, dans le cas d'un criminel, est qu'il est loin d'être quelqu'un qui agit pour des raisons fondamentales et intrinsèques, et qui vit dans son propre monde. Il est au contraire quelqu'un de très sensible à son environnement, attentif à toutes sortes d'indices et poussé à commettre des crimes en fonction de sa perception du monde qui l'entoure. Une étude a montré comment des personnes charismatiques pouvaient, sans rien dire et avec la plus brève exposition, affecter les autres avec leurs émotions. Les implications de ces deux études vont au cœur de la loi du petit nombre, parce qu'elles suggèrent que ce que nous considérons comme des états intérieurs, préférences et émotions, sont en fait fortement et imperceptiblement marqués par des influences personnelles apparemment sans importance. Tel un présentateur que nous regardons quelques minutes par jour, ou quelqu'un assis à côté de nous, en silence pendant 2 minutes. L'essence du pouvoir du contexte est que la même chose est vraie pour certains types d'environnement, que d'une manière que nous n'apprécions pas nécessairement, nos états intérieurs sont le résultat de nos circonstances extérieures. Il ajoute que le domaine de la psychologie est riche d'expériences qui le démontrent. La plupart des psychologues croient que la nature, la génétique, explique environ la moitié des raisons pour lesquelles nous avons tendance à agir comme nous le faisons. Cela veut simplement dire qu'il y a des moments, des endroits et des conditions où une grande partie de ces faits peut être balayée. Qu'il y a des intrigues où vous pouvez prendre des gens normaux dans de bonnes écoles, des familles heureuses et de bons quartiers, et affecter leur comportement en modifiant simplement les détails immédiats de leur situation. Cependant, l'erreur que nous commettons en pensant que le caractère est quelque chose d'unifié et de global est très semblable à une sorte d'angle mort dans la façon dont nous traitons l'information. Les psychologues appellent cette tendance l'erreur fondamentale d'attribution, FAE, qui est une façon fantaisiste de dire que lorsqu'il s'agit d'interpréter le comportement des autres, les êtres humains font invariablement la même erreur en surestimant l'importance des traits de caractère fondamentaux et en sous-estimant l'importance de la situation et du contexte. Nous chercherons toujours une explication dispositionnelle des événements, par opposition à une explication contextuelle. Aussi, le caractère n'est pas ce que nous pensons qu'il est, ou plutôt ce que nous voulons qu'il soit. Il ne s'agit pas d'un ensemble stable et facilement identifiable de traits étroitement liés, et cela ne semble être le cas qu'en raison d'un problème dans l'organisation de notre cerveau. Le caractère ressemble davantage à un ensemble d'habitudes, de tendances et d'intérêts, vaguement liés les uns aux autres et dépendant, à certains moments, des circonstances et du contexte. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous semblent avoir un caractère cohérent est que nous sommes pour certains vraiment bons pour contrôler notre environnement. Il s'agissait d'une expérience qui s'inscrit tout à fait dans la tradition de l'erreur fondamentale d'attribution, FAE, et qui montre à quel point le pouvoir du contexte a des répercussions sur la façon dont nous envisageons les mouvements sociaux de toutes sortes, pas seulement les crimes violents. Les mouvements sont à l'origine de ce processus même de transformation. Lorsque nous essayons de faire passer une idée, une attitude ou un conseil sur un produit, nous essayons de changer notre public dans un certain respect, petit mais critique. Nous essayons de l'affecter, de le faire aller dans notre sens, de sorte qu'il passe de l'hostilité à l'acceptation. Et cela peut se faire sous l'influence de personnes d'un genre particulier, de personnes qui ont des liens relationnels extraordinaires. C'est la loi du petit nombre. Cela peut se faire en changeant le contenu de la communication, en rendant un message si mémorable qu'il reste gravé dans l'esprit de quelqu'un et le pousse à l'action. C'est le facteur de mémorabilité. Je pense que ces deux lois ont un sens intuitif. Nous devons nous rappeler que de petits changements de contexte peuvent être tout aussi importants pour faire basculer les mouvements. Même si ce fait semble violer certaines des hypothèses les plus profondes sur la nature humaine. L'ancienne conception de la gestion des vagues de criminalité conduit inévitablement à se préoccuper des mesures défensives contre la criminalité. Une fois que vous comprenez que le contexte est important et que des éléments spécifiques et relativement petits dans l'environnement peuvent servir de point de basculement, le défaitisme est rompu. Les points de basculement environnementaux sont des choses que nous pouvons changer. Nous pouvons réparer les vitres brisées, nettoyer les graffitis et changer les signaux qui invitent au crime en premier lieu. Le crime peut être plus que compris. Il peut être évité. Mais en réalité, ce n'est rien de plus qu'une extension évidente et sensée du pouvoir du contexte parce qu'il dit simplement que les enfants sont fortement influencés par leur environnement extérieur que les caractéristiques de notre monde social et physique immédiat. Les rues où nous marchons, les gens où nous rencontrons, jouent un rôle énorme dans notre identité et notre comportement. Ce n'est pas seulement un comportement criminel grave en fin de compte qui est sensible aux indices environnementaux. C'est tout un comportement. Plus précisément, elle témoigne du pouvoir d'un aspect spécifique du contexte, à savoir le rôle crucial que jouent les groupes dans les mouvements sociaux. Lorsque l'on demande aux gens d'examiner des données probantes ou de prendre des décisions en groupe, ils arrivent à des conclusions très différentes que celles prises s'ils s'étaient eux-mêmes posé la question. Une fois que nous faisons partie d'un groupe, nous sommes tous sensibles à la pression des pairs, aux normes sociales, et à toutes sortes d'autres types d'influences qui peuvent jouer un rôle crucial pour nous secouer au début d'une épidémie. En d'autres termes, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons traiter autant d'informations à la fois. Une fois que l'on dépasse une certaine limite, on est submergé. Ce que l'auteur décrit ici est une capacité intellectuelle, notre capacité à traiter l'information brute. Mais si on y réfléchit bien, il est clair que nous avons aussi une capacité d'analyse pour les sentiments. Cependant, la limite naturelle la plus intéressante est peut-être ce que l'on pourrait appeler notre capacité à construire du lien social. Les arguments en faveur d'une capacité sociale ont été présentés, de façon très convaincante, par l'anthropologue britannique Robin Dunbar. En effet, son analyse est la suivante. Les primates, les babouins, les humains ont le plus gros cerveau de tous les mammifères. Plus important encore, une partie spécifique du cerveau des humains et d'autres primates, la région connue sous le nom de néocortex, qui traite de la pensée et du raisonnement complexe, est énorme selon les normes des mammifères. Si l'on regarde n'importe quelle espèce de primate, toutes les variétés de singes, plus leur néocortex est grand, plus la taille moyenne des groupes avec lesquels ils vivent est grande. L'argument de Dunbar est que les cerveaux évoluent. Ils deviennent plus gros, afin de gérer les complexités de groupes sociaux plus importants. Si vous faites partie d'un groupe de 5 personnes, souligne Dunbar, vous devez tenir compte de 10 relations distinctes. Votre relation avec les 4 autres personnes de votre cercle et les 6 autres relations bilatérales entre les autres. C'est ce que signifie connaître tout le monde dans le cercle. Vous devez comprendre la dynamique personnelle du groupe, jongler avec différentes personnalités, garder les gens heureux, gérer les exigences de votre temps et de votre attention. Si vous appartenez à un groupe de 20 personnes, ce sont 190 relations bidirectionnelles pour garder une trace de 19 pour vous-même et 171 pour le reste du groupe. C'est le quintuple de la taille du groupe, mais le 20e de la quantité de traitement de l'information nécessaire pour en connaître les autres membres. En d'autres termes, même une augmentation relativement faible de la taille du groupe crée une charge sociale et intellectuelle supplémentaire significative. Les humains socialisent dans les plus grands groupes de tous les primates parce que nous sommes les seuls animaux avec un cerveau assez grand pour gérer les complexités de l'arrangement social. La règle des 150 suggère que la taille d'un groupe est un autre de ces facteurs contextuels subtils qui peuvent faire une grande différence. Une fois cette ligne du point de basculement franchie, les membres du groupe commencent à se comporter très différemment. Si nous voulons que les groupes servent d'incubateur pour des messages diffus, alors comme cela a été fait dans le cas du secret divin de la sororité Yaya ou de l'église méthodiste primitive, nous devons maintenir les groupes sous le seuil de 150. Au-delà de ce point, il commence à y avoir des obstacles structurels à la capacité du groupe à être d'accord et à agir d'une seule voix. La règle des 150 dit que les fidèles d'une église en expansion rapide, ou les membres d'un club social, ou quiconque dans une activité de groupe misant sur la propagation, diffuse des idéaux partagés, doit être particulièrement conscient des dangers de la grandeur. Franchir les 150 lignes est un petit changement qui peut faire une grande différence. La pression des pairs est beaucoup plus puissante qu'un concept de patron. La pression dont l'auteur parle est celle que l'on subit lorsque les vendeurs sont dans le même monde que les fabricants et que le vendeur, qui veut se charger de la commande d'un client, peut aller directement parler à quelqu'un qu'il connaît dans l'équipe de fabrication et dire « j'en ai besoin ». Lorsque les gens se connaissent bien, ils créent un système de mémoire commune implicite, un mastermind, qui est basé sur la compréhension de qui est le mieux placé pour se souvenir de quel genre de choses. Le développement de relations est souvent compris comme un processus d'autodivulgation mutuelle. La mémoire commune fait partie en quelque sorte de l'intimité. Comme l'énergie mentale est limitée, nous nous concentrons sur ce que nous faisons le mieux. Mais dans une entreprise de haute technologie comme Gore, dont l'avantage sur le marché repose sur sa capacité à innover et à réagir rapidement à des clients exigeants et sophistiqués, ce type de système de mémoire globale est essentiel. Cela rend l'entreprise incroyablement efficace. Cela signifie que la coopération est plus facile, que vous allez beaucoup plus vite pour faire avancer les choses, qu'il faut créer des équipes de travailleurs ou trouver une réponse à un problème. Cela signifie également que les personnes d'une partie de l'entreprise peuvent avoir accès aux impressions et à l'expertise de personnes d'une toute autre partie de l'entreprise. Pour s'unifier, pour diffuser une idéologie d'entreprise spécifique à l'ensemble de ses collaborateurs, Gore a dû se scinder en petits morceaux semi-autonomes. C'est le paradoxe de l'effet de mouvement. Pour créer un mouvement contagieux, il faut souvent d'abord créer de nombreux petits mouvements. Tout comme les super-vendeurs qui, par la force persuasive de leur personnalité, servent de point de basculement dans un mouvement de bouche à oreille, les personnes qui meurent dans des suicides très médiatisés, dont les décès donnent aux autres la permission de mourir, servent de point de basculement dans les vagues de suicides. Le langage commun du tabagisme est aussi riche et expressif que le langage commun du suicide. Dans cette vague, il y a aussi des gens qui donnent des pourboires, des vendeurs, des pourvoyeurs. À maintes reprises, les répondants à son enquête ont décrit exactement de la même façon la personne qui les a poussés à fumer. Quelle que soit l'influence de l'environnement que nous subissons, elle n'a pas grand-chose à voir avec les parents. C'est autre chose. Et cette autre chose, c'est l'influence des pairs. Nous avons été obsédés par l'idée de déjouer l'influence des vendeurs fumeurs. Mais l'influence de ces vendeurs ressemble de plus en plus à quelque chose que nous ne pouvons pas briser. Bref, nous sommes en quelque sorte convaincus que nous devons nous attaquer à l'ensemble du problème d'un seul coup. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Il suffit de trouver les points de basculement de mémorabilité et les liens avec la dépression et le seuil de nicotine. Ce que nous devons retenir de la stratégie de mémorabilité est qu'elle permet une approche plus raisonnable de l'expérimentation chez les adolescents. Conclusion. Le départ de mouvement nécessite de concentrer les ressources sur quelques domaines clés. La loi du petit nombre dit que les réseauteurs, les fins spécialistes et les super-vendeurs sont responsables de l'effet de bouche à oreille et que nos ressources devraient être concentrées uniquement sur ces trois groupes. L'auteur poursuit en déclarant « La solution sparadrap est en fait la meilleure parce qu'elle implique la résolution d'un problème avec un minimum d'efforts, de temps et d'argent. » Nous avons bien sûr un dédain instinctif pour ce genre de solution parce qu'il y a quelque chose en chacun de nous qui pense que les vraies réponses aux problèmes doivent être complètes, qu'il y a de la vertu dans l'application obstinée et aveugle de l'effort, qui devrait être lent et constant pour ainsi dire gagner la course. Le problème, bien sûr, c'est que l'application aveugle de l'effort n'est pas toujours possible. Il y a des moments où nous avons besoin d'un raccourci pratique, d'un moyen de faire beaucoup avec un peu. Et c'est ce que sont, au bout du compte, les points de basculement. La théorie du point de basculement exige cependant que nous recadrions notre façon de penser le monde. L'auteur nous a enseigné les spécificités concernant la façon dont nous relions de nouvelles informations aux anciennes et la façon dont nous nous connectons aux autres. Il y a des limites abruptes au nombre de catégories cognitives que nous pouvons créer, au nombre de personnes que nous pouvons vraiment aimer et au nombre de connaissances que nous pouvons vraiment avoir. Nous levons les mains vers un problème formulé de manière abstraite, mais nous n'avons aucune difficulté à résoudre le même problème reformulé comme un dilemme social. Toutes ces choses sont l'expression des particularités de l'esprit et du cœur humain. Une réfutation de l'idée que la façon dont nous fonctionnons, communiquons et traitons l'information est simple et transparente. Mais ce n'est pas le cas. Cette manière de fonctionner est désordonnée et opaque. Ceux qui réussissent à créer des mouvements sociaux ne font pas seulement ce qu'ils pensent être juste. Ils testent délibérément leur intuition. Sans qu'un gêneur vienne leur dire que leur intuition sur la fantaisie et la réalité est fausse. Pour comprendre les mouvements sociaux, il faut d'abord comprendre que la communication humaine a ses propres règles et qu'elles sont assez inhabituelles et contre-intuitives. En fin de compte, le succès des mouvements doit reposer sur la conviction profonde que le changement est possible, que les gens peuvent transformer radicalement leur comportement ou leurs croyances face au bon type d'impulsion. Cela contredit également certaines des affirmations les plus ancrées que nous pouvons avoir sur nous-mêmes et les uns sur les autres. Nous aimons nous considérer comme autonomes et orientés vers l'intérieur, que ce que nous sommes et comment nous agissons est quelque chose qui dépend en permanence de nos gènes et de notre tempérament. Mais si l'on additionne les exemples de super-vendeurs et de réseauteurs, les règles du 150 et l'erreur fondamentale d'attribution, FAE, on arrive à une conclusion très différente sur ce que cela signifie d'être humain. Nous sommes en fait fortement influencés par notre environnement, notre contexte immédiat et les personnalités de ceux qui nous entourent. Regarder de près des comportements complexes comme le tabagisme, le suicide ou le crime, c'est apprécier à quel point nous sommes suggestibles face à ce que nous voyons et entendons, et à quel point nous sommes sensibles aux moindres détails de la vie quotidienne. Si le changement social est si instable, et si souvent inexplicable, c'est parce qu'il est dans notre nature à tous d'être instable et inexplicable. L'auteur conclut « Mais s'il y a de la difficulté et de la volatilité dans le monde des points de basculement, il y a aussi une grande dose d'espoir. En manipulant simplement la taille d'un groupe, nous pouvons améliorer considérablement sa réceptivité aux nouvelles idées. En ajustant la présentation de l'information, nous pouvons améliorer considérablement sa viscosité. Simplement en trouvant et en rejoignant ces quelques personnes spéciales qui détiennent tant de pouvoir social, nous pouvons façonner le cours des mouvements sociaux. En fin de compte, les points de basculement sont une réaffirmation du potentiel de changement et du pouvoir de l'action intelligente. Si nous regardons le monde qui nous entoure, à la moindre poussée, au bon endroit, il peut peut-être connaître un magnifique bouleversement. Plan d'action. 1. Faites-vous partie de l'une des trois catégories dont il est question, les réseauteurs, les fins spécialistes et ou les super-vendeurs. Plusieurs réponses sont possibles. 2. Si oui, quelle stratégie souhaitez-vous adopter pour développer votre business et ou promouvoir votre produit? 3. Que vous fassiez partie de ces trois catégories ou non, qui, dans votre entourage, personnel ou professionnel, pourriez-vous qualifier de réseauteur, de fin spécialiste ou de super-vendeur? 4. On a vu que pour atteindre le point de basculement, il fallait changer certains détails de son environnement immédiat. Quels sont les petits changements que vous pourriez effectuer et qui seraient susceptibles d'avoir de l'impact sur la visibilité sur le marché? Faites la liste de ces petits changements. 5. Avec la loi de la mémorabilité, il est important pour que le message ait du succès d'adopter un discours clair, facile à comprendre, facile à retenir, adapté à sa cible et attrayant. En quoi pouvez-vous améliorer votre communication afin d'atteindre ces points visés? 6. Quels sont selon vous les points qui pourraient être améliorés dans votre stratégie globale et quelles solutions pourriez-vous envisager de mettre en place? Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore, encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé des livres pour s'enrichir.